Rent, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier. Les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, Gercop et le réseau La Forêt sur Radio Immo.
Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Immo. Nous sommes en direct du Rent et nous avons choisi de consacrer cette table ronde à la crise du logement. La commission dédiée à la relance durable de la construction du logement, présidée par François Rebsamen, a remis la première partie de son rapport le 20 septembre 2021, donc le 20 septembre dernier. Il en ressort, entre autres, un fort décrochage de la construction en zone tendue. Pour m'accompagner sur ce sujet, Bernard Cadeau, délégué général de e-listing, ex-président Orpi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous sur ce plateau. Première question évidente, quel état des lieux vous faites finalement de cette crise du logement ?
Ben, vous faisiez allusion à ce rapport du mois de septembre, donc un rapport tout récent. Mais en réalité, le problème, il est bien plus ancien, puisque ça fait des années, on peut dire même des dizaines d'années, qu'il y a un déficit entre l'offre et la demande de logements en France. Il y a beaucoup de demandes et de plus en plus de demandes. On pourra peut-être en parler et évoquer les raisons pour lesquelles cette demande, elle est exponentielle. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas assez d'offres. Donc on n'a pas suffisamment construit depuis de nombreuses années. Il faut aussi rénover le parc existant, mais en termes de construction, c'est vrai qu'il y a un énorme déficit qui est constaté par ce rapport. Et les choses n'ont pas allé en s'arrangeant.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la France serait une mauvaise élève ?
Je ne sais pas si c'est la France qui est mauvaise élève ou si c'est l'organisation de l'État, des gouvernements successifs et la volonté d'avoir une politique structurelle. Ce qui est certain, c'est qu'on est en déficit. Le pays le plus proche de nous, qui est l'Allemagne, et qui est souvent comparé à la France, avait lui bénéficié et bénéficie encore d'un équilibre à peu près équivalent entre l'offre et la demande, donc moins de tension sur les prix. Parce que au bout du compte, la vraie question, c'est que quand il n'y a pas assez d'offres et beaucoup de demandes, ça fait grimper les prix. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup à faire. Je pense qu'il y a un problème de fond, c'est que une stratégie globale, publique, du logement et de l'urbanisation, elle va au-delà des délais qui sont impartis et du temps dont disposent les politiques. Mmh. En clair, un quinquennat, c'est 5 ans. Mmh. Et une vraie politique structurelle pour rétablir ce déficit de logement, c'est entre 10 et 15 ans. Donc on bute en permanence là-dessus. Et le logement n'a jamais été une cause principale ou une cause majeure dans les programmes électoraux. On va voir, il va y avoir une présidentielle bientôt. Mmh. Pour l'instant, c'est pas très très bien parti parce que le logement n'est pas dans les préoccupations qui nous sont présentées.
C'est un peu ce que regrette effectivement la majorité des professionnels. Mais alors justement, à l'occasion du 81e congrès de l'Union sociale pour l'habitat, qui s'est tenu le 28 septembre dernier, je le rappelle, le Premier ministre Jean Castex a annoncé quand même des mesures. Les deux mesures phares, notamment, qui ont retenu l'attention des professionnels, il y a la modification de l'aide à la construction durable et aussi la compensation intégrale par l'État de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Est-ce que c'est suffisant selon vous ?
Non, il faut pas rejeter pour le plaisir de rejeter et dire que c'est pas bien, mais c'est notoirement insuffisant. C'est bien qu'il y en ait, mais ça ne suffit pas. En fait, il y a deux problèmes qu'il faut essayer de résoudre et amener de front. Le premier, c'est comment est-ce qu'on résorbe le déficit de logements disponibles et offerts à la clientèle, aux Français, pour pouvoir se loger, que ce soit à l'acquisition ou à la location. Et en même temps, parce que c'est un défi majeur et c'est un défi global pour l'économie française, c'est comment est-ce qu'on peut allier cet objectif-là avec l'objectif de rénovation énergétique. Parce que les deux sont évidemment liés. Donc il y a matière à faire en termes de construction, avec des normes, notamment la RT 2020 et puis celles qui suivent derrière. Mmh. Et puis il y a aussi, sur le parc existant, tout un volet qui va être destiné à convaincre et à accompagner les familles pour faire cet effort vers la transition énergétique.
Alors ces enjeux sont liés, mais est-ce qu'ils ne seraient pas non plus contradictoires ou en tout cas n'entreraient pas en conflit finalement ? Parce que d'un côté, effectivement, on a les enjeux énergétiques et de l'autre côté, il faut loger les Français.
Oui, mais on peut imaginer le meilleur des deux mondes. Parce que loger les Français dans des conditions de précarité et dans de mauvaises conditions, ce n'est pas un objectif. Et en même temps, cette obligation vraiment sociétale du défi énergétique, elle s'impose à tous. Donc on doit pouvoir arriver à faire les choses. Je pense vraiment que c'est une question de tempo, une question de volonté. Je vais prendre un exemple. Vous avez un dispositif qui fonctionne très très bien qui s'appelle MaPrimeRénov. MaPrimeRénov, tout le monde s'accorde à dire que c'est un succès parce que il y a plusieurs milliers ou dizaines de milliers de dossiers qui ont été lancés et qui ont été étudiés et puis validés. Bon, le problème, c'est que le taux moyen ou le prix moyen ou le ticket moyen de MaPrimeRénov, c'est autour de 4000 euros. Avec 4000 euros, on ne va pas très loin.
C'est certain.
Donc, se pose derrière un autre problème qui est celui du reste à charge. Je peux très bien avoir pris conscience qu'il faut rénover mon logement, que c'est important, aussi bien pour la planète, pour les autres que pour moi-même. Si mes moyens ne me permettent pas de subvenir au complément d'investissement qui est nécessaire, ben, ça posera un problème. Donc, je pense que c'est vraiment... Tout le monde a conscience de ce qu'il faut faire. Après, il faut arriver à se poser et puis à se dire, ben là, dorénavant, on va s'y mettre tous ensemble et on va le faire de manière structurée et je dirais de manière patiente. Il faut qu'on installe les choses dans le temps.
Ce que vous êtes en train de soulever aussi, c'est intéressant, c'est que finalement, les dispositifs et les aides ne seraient pas suffisamment enthousiasmante pour amorcer finalement ce changement et répondre à ces enjeux ?
C'est pas tout à fait, c'est un petit peu ça et en même temps je pense que il faut pas forcément rajouter des aides aux aides. Moi je suis assez partisan d'une politique qui soit claire, qui soit simple, qui soit compréhensible par tout le monde, à laquelle tout le monde puisse adhérer et qui consisterait à dire on va une bonne fois pour toutes faire en sorte qu'on puisse construire. Vous évoquiez le rapport Rebsamen, par exemple, et on vient de le découvrir. Est-ce que on sait exactement quels sont les fonciers disponibles en France ? Parce que via les fonciers disponibles, on a derrière la chaîne de la construction qui peut se mettre en route. Voilà, c'est des choses qui sont finalement pas très spectaculaires. C'est pas une annonce qu'on fait le matin à la radio sur Radio Immo et puis qui va faire le reste. C'est surtout se dire voilà, on se met en posture et en position de résoudre durablement ce déficit là, et notamment le foncier.
Bah oui, la rareté du foncier, c'est un des principaux obstacles finalement au relogement, j'ai envie de dire, des Français. Alors, il y avait cette question aussi de la réhabilitation des friches hein, qui était également soulevée au sein de certaines collectivités. C'est vrai que finalement, construire, c'est bien, mais ça ne répond pas aux enjeux énergétiques de l'autre côté, puisqu'on doit moins construire, c'est en tous les cas ce à quoi on aspire. Est-ce que la réhabilitation des friches peut être une solution au logement des Français ?
Ben, c'est à coup sûr une des solutions, c'est pas la solution. Il y a effectivement un principe qui a été posé par la loi climat et résilience qui s'appelle le zéro artificialisation nette des sols. Tout dépend comment on l'aborde. On peut l'aborder de manière très très restrictive ou de manière un petit peu plus large et pragmatique. Oui, la réhabilitation des friches, ça fait partie des solutions. Maintenant, c'est pas parce qu'on réhabiliterait toutes les friches qu'on aurait trouvé toute la solution.
Et c'est coûteux. C'est très coûteux.
Ben, c'est coûteux parce que parmi les friches, vous avez notamment des friches industrielles qu'il faut dépolluer, etc., etc. Bon, pour autant, il ne faut pas négliger ces pistes-là. Mais je crois que c'est l'ensemble de ces choses-là qui peut apporter progressivement une solution.
Et puis, on va être aussi honnête, il y a aussi la réticence hein, des citoyens et des locaux, hein, parfois aussi, hein, quand il s'agit de reconstruire au sein des communes et des métropoles.
Alors, vous connaissez l'adage, hein, on dit maire bâtisseur, maire battu. Une des raisons pour lesquelles les constructions sont effondrées sur les derniers mois ou les dernières années, c'est que on s'est trouvé, ça c'est un cycle électoral, on s'est trouvé en année pré-électorale au niveau des élections municipales, et beaucoup de maires étaient réticents à délivrer des permis de construire. Donc, je pense que là aussi, il y a un travail important à faire avec les collectivités locales, à être plutôt dans une logique de récompense et d'incitation plutôt que dans une logique de punition. Je pense notamment au taux de logements sociaux dans le cadre de la construction via la loi SRU. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'on est tous pareils. On aimerait bien avoir tout le confort et toutes les choses à portée de la main et puis en même temps que ça soit loin de chez nous. J'appelle ça l'effet TGV. Hein. On est d'accord pour avoir le TGV à moins de 5 minutes de chez soi, mais on ne veut surtout pas qu'il passe au fond du terrain. Donc, voilà, ça fait partie des contradictions françaises, mais on se rend bien compte aussi que c'est important, et le Covid l'a démontré, c'est important de permettre aux Français d'être bien logés et d'être logés dans un cadre qu'ils ont choisi et pas un cadre subi.
contradiction d'autant plus incomprise quand on connaît finalement l'appétence du français pour l'immobilier et la culture assez naturelle justement pour l'immobilier.
Ça c'est une constante, oui. Ça c'est une constante, effectivement. Ben, récemment, il y a eu un débat, bon, je pense peut-être malheureux, autour d'une annonce qui avait été faite par notre ministre, mais l'histoire de la maison individuelle avec jardin, c'est le rêve de 75% des Français. Bon, et ben ça, on n'est pas prêt de l'enlever. Et il faut bien qu'on arrive ensemble à trouver des solutions pour que tout le monde s'y retrouve finalement.
Alors, vous avez soulevé la rareté de la délivrance des permis de construire. Donc, je rebondis là-dessus parce que finalement, la construction neuve a été durement impactée par la crise liée au Covid-19 avec une chute de moins 14,7% pour les permis de construire, soit 381 800 autorisations contre 423 000 en 2019. C'est une source de FFB. Les conséquences de cette rareté des constructions de permis de construire sur moyen-long terme?
Bah déjà, il faut voir d'où on part. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une logique, malheureusement, de déficit de logements. On s'accorde à peu près à dire qu'il manque 900 000 logements en France, entre 900 000 et 1 million, et qu'il faudrait, pour qu'il y ait un taux de renouvellement, qu'il faudrait qu'il y ait 400 000, 450 000 logements construits. Là, c'était un effondrement total, non seulement des mises en chantier, mais surtout des délivrances de permis de construire. On est revenu quasiment 20 ans en arrière en termes de performance de construction, donc il y a vraiment quelque chose à faire. La traduction, malheureusement, c'est que il va y avoir un peu plus de pression sur la demande, un peu moins d'offres, et donc à terme, un risque au niveau des prix. C'est pour ça aussi que on évoquait le foncier tout à l'heure et le fait de pouvoir identifier les fonciers disponibles, et notamment les fonciers publics, qui pourraient être une solution pour désamorcer un peu cette logique de prix, parce que si on peut mettre à disposition des promoteurs des fonciers plus accessibles, moins chers, on peut imaginer qu'en sortie, l'avantage soit restitué à l'acheteur. Donc un petit peu moins sur le prix de vente. Mais clairement, quand vous êtes dans un marché qui est ultra tendu et pénurique, finalement, la seule variable d'ajustement, c'est le prix.
Oui, là, on va vers une inflation des prix, là, concrètement.
Oui, jusqu'au moment où les acquéreurs pourront plus financer. Parce que malgré des taux historiquement bas, on commence à voir cette courbe qui s'aplatit et qui va s'infléchir entre le taux bas d'un côté, mais le pouvoir d'achat réel du client de l'autre. Donc c'est un équilibre qui est très très subtil. Et ce qu'on ne construit pas aujourd'hui, ça sera le déficit et la crise du logement de dans 4 ans. Parce que quand vous construisez, entre le moment où vous trouvez un foncier, vous construisez un immeuble et le moment où il est livré au client, il se passe entre 3 et 5 ans. Donc on peut se dire que dans 4 ans, on aura un accroissement de ce déficit de logement.
S'ajoute à cette liste noire la difficulté à obtenir des financements, puisque les banques ont durci les règles d'obtention. Et en plus, elles sont contrôlées par l'AMF bien plus que d'ordinaire. Là-dessus, on peut imaginer une France demain avec des propriétaires dans ce contexte.
C'est tout le paradoxe parce que dans l'opinion publique, on entend depuis très très longtemps les taux sont historiquement bas, donc tout le monde se dit allons-y. Le marché d'ailleurs est un marché très actif parce qu'on n'a jamais autant vendu que cette année-ci, l'année d'avant encore. Et pour autant, ça commence à se durcir. Il y a deux catégories qui sont très très impactées par cette nouvelle situation des prêts. Ce sont les primo-accédants, les jeunes, et puis les classes moyennes. Et ce sont deux catégories tout à fait importantes dans le cycle du logement et dans le marché global du logement, parce que les primo-accédants, une fois qu'ils ont acheté une fois et qu'ils revendent, c'est eux qui alimentent le marché, etc. Et ceux-là, quand on leur demande d'avoir un apport personnel qui va être entre 10, 15, 20, 25 000 euros pour acheter, c'est très compliqué de le constituer. Et les classes moyennes, pareil. Donc attention.
Avec le respect des 33% qui aujourd'hui ne peuvent plus être finalement...
Voilà. Il y a moins de liberté accordée aux banques pour apprécier la solvabilité de leurs clients, ce qui est quand même un paradoxe, parce que celui qui connaît le mieux son client, c'est le banquier.
Évidemment.
Parce que par définition, il le suit depuis plusieurs années et il sait de quoi il est capable ou pas. Et à ce banquier, on va lui dire il y a un quota, il faut le respecter. Donc attention à ce phénomène-là, parce qu'il y a un vrai risque qu'un fossé se creuse entre les différentes catégories de celles et ceux qui peuvent accéder à la propriété.
Alors, Grégory Monod, président du pôle Habitat FFFB, déplore que le logement neuf soit resté le grand oublié du plan France Relance. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ?
Oui. De même que le plan d'avant, le logement n'était pas mis en avant. Donc, je vous le disais tout à l'heure, là, il y a un grand débat national qui est en train de s'ouvrir.
Mais sans l'immobilier.
Et qui est déjà ouvert. Pour l'instant, sans l'immobilier. Donc, j'espère que... plus que l'immobilier, je parlerai du logement, moi, hein, parce que le logement, je pense que c'est un concept qui parle beaucoup plus à tout le monde.
Est-ce que c'est pas lié finalement ? Parce que faciliter les transactions pour les investisseurs, c'est aussi favoriser le logement derrière.
Mais oui. Et encore faudrait-il qu'il y ait un système qui soit global et qui soit, je dirais, cohérent, notamment avec une fiscalité. Il y a un point important et positif, c'est le retour des investisseurs institutionnels sur le marché du logement. Parce que les grandes fortunes, enfin les grands fonds se rendent compte que finalement l'immobilier, c'est un actif qui est tangible, qui est non délocalisable et qui est résilient. Donc ça fait beaucoup d'avantages. Et ils ne se tournent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vers des loyers très chers. Ils visent au contraire un marché qui est le marché du logement locatif résidentiel à prix raisonnable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut penser aux particuliers qui ont envie d'investir et qui se disent deux choses. Ils se disent, je vais perdre des revenus quand je serai à la retraite et j'ai envie de transmettre quelque chose à mes héritiers. Ceux-là, pour l'instant, ils sont un petit peu démunis. Raison pour laquelle, je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais je plaide depuis très longtemps pour qu'on puisse créer le statut du bailleur privé qui permette à des particuliers qui veulent investir de bénéficier d'un statut comparable à une micro-entreprise.
Alors justement, c'était un petit peu aussi ma prochaine question. Vous avez été de nombreuses années un président du réseau Orpi. Vous avez une expérience vraiment inégalée dans l'immobilier. Implicitement, vous avez forcément des idées que vous avez envie de partager avec des élus. Est-ce que vous communiquez avec eux ? Est-ce que vous avez envie de travailler aussi main dans la main avec eux ? Est-ce que vous êtes porté par ce défi finalement ?
Oui, bien évidemment. Et puis le dialogue, il existe. Avant d'entrer sur ce plateau, j'ai salué le député Michaël Nogal qui fait partie de ces élus, de ces parlementaires qui sont tout à fait concernés et très impliqués dans la politique du logement. C'est important qu'on garde ce dialogue-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un hiatus de temporalité entre un mandat qui dure 5 ans et un besoin technique qui va bien au-delà des 5 ans. Donc moi, si j'avais une requête à faire, c'est de dire que comme quand on fait une course de relais sur un stade, il faut passer le témoin à ceux qui arrivent et faire en sorte qu'ils reprennent le même témoin et qu'ils continuent et qu'ils poursuivent l'effort. Parce qu'on ne peut pas être dans une politique de stop and go. C'est pas possible. Si par exemple là on identifie des fonciers disponibles, il va falloir que derrière ça suive et vous l'avez compris, ça va s'étaler sur plusieurs années. Donc c'est ça le souhait. Et puis bien sûr, alors j'espère qu'il y aura un biais pour parler du logement dans la campagne présidentielle, c'est le biais du pouvoir d'achat. Parce que le logement, c'est le poste principal de dépenses des Français.
Et oui.
Donc quand on parle pouvoir d'achat et prix de l'essence, moi je ne suis pas contre, mais objectivement, le quotidien de tout le monde, c'est plus le prix du loyer ou le remboursement du crédit à la fin du mois que le litre d'essence à la pompe.
Allez, le mot de la fin, Bernard Cadeau. Si on avait, par exemple, des élus là, qui écoutent l'émission et la chaîne donc Imo, Radio Imo, pardon, trois conseils pour clôturer cette interview.
Trois conseils à eux. Voilà, ça serait très présomptueux que je donne des conseils aux élus, mais je pense qu'il faut, poursuivre le dialogue. Il faut être dans une logique de... Moi, vous savez, je viens de l'entreprise et je crois beaucoup au contrat. Parce que le contrat, c'est ce qui fait qu'on fait société et qu'on arrive à faire des choses. Donc peut-être passer un contrat, peut-être un engagement sur le long terme, parce que c'est finalement pas politique le logement. C'est pas un intérêt politicien. Ou alors c'est politique dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire faire les choses pour le bien des gens. Donc aucun candidat d'aucun bord que ce soit ne peut dire le logement c'est pas important. Donc c'est au moins peut-être le plus petit commun dénominateur sur lequel se retrouver pour se dire oui, on fait comment, on laisse de côté les idéologies et on fait comment concrètement pour améliorer les conditions de logement des gens et leur apporter ce dont ils ont besoin.
Merci beaucoup d'avoir passé cette petite demi-heure avec
Merci
nous, Bernard Cadeau.
Merci.
Au plaisir. Au revoir.
Rent, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier, les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, Gercop et le réseau La Forêt sur Radio Immo.